Le journal Loïc et Barrière. Huit morts et 35 blessés dans l'explosion d'une mine antipersonnel dans l'est de la Syrie. Paris dénonce la trajectoire très préoccupante de la politique nucléaire de Téhéran. Le 8 mars, Emmanuel Macron présidera un hommage national à l'avocate Gisèle Halimi. Après l'Assemblée nationale, la réforme des retraites est examinée à partir d'aujourd'hui au Sénat. Le nombre de personnes en situation de précarité augmente en France, notamment les femmes. Illustration avec Christophe Piedra de l'Armée du Salut. Enfin, nous évoquerons le parcours de Just Fontaine, la légende du football français et marocain qui vient de décéder. Entretien avec le spécialiste de l'histoire du football, Stanislas Frankiel. En Syrie, la mort de 8 civils tués par l'explosion d'une mine antipersonnel. Cela s'est passé dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Les victimes cueillaient des truffes du désert lors de l'explosion qui a fait également 35 blessés. Plus de 10 millions de Syriens résident dans des régions qui ont été minées durant la guerre civile. Au Liban, un mort et 7 blessés lors d'affrontements dans le camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Helouet dans le sud du pays. Les incidents armés ont opposé le Fatah à des groupes islamistes. La France dénonce la trajectoire très préoccupante de la politique nucléaire de l'Iran, une réaction au dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, évoque des particules d'uranium enrichi à plus de 80%. En Iran, les élèves de 7 écoles de filles ont été indisposés par des émanations de gaz. Au total, 108 personnes ont été transportées à l'hôpital. Les intoxications au gaz se multiplient ces derniers jours en Iran. Le président Ebrahim Raisi a demandé au ministre de l'Intérieur de suivre l'affaire au plus vite et d'informer le public sur l'enquête pour répondre aux inquiétudes des familles. En France, c'est ce week-end que les Restos du Cœur organisent leur collecte. À cette occasion, l'ONG annonce une hausse de 22% des personnes accueillies cet hiver. Les Restos du Cœur ont constaté une augmentation du nombre de familles avec de très jeunes enfants et notamment des mères seules. Alors que les prix de l'alimentation s'envolent, les associations constatent une hausse de la précarité en France. Regard notamment sur l'aide apportée aux femmes sans-abri. Entretien avec Christophe Piedra, directeur adjoint du programme Inclusion Région Normandie Nord Grand Est au sein de la Fondation de l'Armée du Salut.
Comme beaucoup d'associations, on constate que les besoins augmentent. On voit effectivement de plus en plus de personnes avec des profils extrêmement variés qui se présentent à nous, à nos bénévoles, et qui viennent demander de l'aide, un repas ou une aide matérielle. Donc oui, on ne peut pas dire que les besoins reculent, malheureusement. Et l'Armée du Salut, avec ses moyens, essaie de répondre à ces sollicitations. Mais bien évidemment, notre action est largement insuffisante. On aimerait faire plus, mais notre action reste malheureusement insuffisante.
Vous ressentez, comme d'autres associations, une accentuation de la précarité et des profils différents par rapport aux années précédentes ?
Oui, très clair. Et puis en plus, cette crise elle vient se rajouter à des publics qui avaient été déjà fragilisés par la crise Covid. Moi, je me souviens, on a vu des étudiants carrément arriver à se présenter à nos services, que ce soit même pour de l'hébergement, parce que certains étudiants avaient des petits boulots qui n'ont pas tenu, parce que notamment dans les métiers de la restauration ou autre, etc., lorsque le secteur, la restauration a dû fermer, eh bien, il y avait des gens qui travaillaient sur ce secteur-là et qui n'ont pas pu payer leur loyer. Ce sont des gens qui ont retrouvé ensuite de l'activité, mais qui se retrouvent fragilisés parce que certains ont des salaires faibles, certains sont employés à temps partiel, on a beaucoup de femmes, et ça on est en parfait alignement avec la Fondation Abbé Pierre, hein, qui parle aujourd'hui d'une augmentation des femmes en difficulté, des femmes à la rue, des femmes aussi qui sont parfois victimes de violences et qui doivent se réfugier aussi dans notre structure. Voilà, donc avec l'ensemble des crises que le monde traverse aujourd'hui, eh bien oui, effectivement, on constate de manière claire une hausse de la fréquentation de nos lieux d'accueil.
Et vous le soulignez, les femmes à la rue sont davantage vulnérables que les hommes.
Bien sûr, les femmes à la rue sont... bien sûr, c'est extrêmement difficile hein, pour les hommes à la rue, mais vous comprenez bien évidemment que c'est encore plus difficile pour une femme qui va être exposée à toute forme de violence. Il est clair que nous, ce que l'on constate, hein, c'est que 100% des femmes hein, qui ont été à un moment donné en situation de rue ont été victimes à un moment donné d'une violence. Voilà. Donc, effectivement, les structures d'accueil peinent encore à voir le jour. Nous, on ouvre encore quelques dispositifs pour les femmes victimes de violences, mais c'est la situation des femmes de manière générale. Les femmes sont aujourd'hui fragilisées dans notre société. On le sait qu'il y a des écarts de salaire qui sont importants. Elles renoncent parfois à une carrière au profit d'une carrière de leur mari. Elles vont sacrifier pour élever les enfants ou autre, etc. Et dès le moment où il y a un problème dans la famille, eh bien, elles n'ont pas de ressources propres. Et lorsqu'elles doivent quitter le domicile, eh bien, elles se retrouvent sans ressources. Et là, elles viennent nous voir. Mais malheureusement, je le dis très clairement, il manque aujourd'hui des accueils spécifiques pour les femmes. Alors, victimes de violence ou pas, hein, victimes de violence ou des femmes qui se retrouvent à un moment donné en situation de rue parce que le contexte familial fait que la situation n'est pas tenable ou autre.
Parce que dans les foyers, aujourd'hui, ces foyers sont mixtes.
Il y a, suivant les situations, on a plusieurs types de structures. On a par exemple une institution comme la Cité des Dames, hein, qui est un centre d'accueil pour les femmes, uniquement dédié aux femmes, hein, aux femmes sans-abri, où là il y a un accès direct, ce qui est extrêmement pertinent, parce que là on peut accueillir une femme qui à un moment donné est victime des coups de son mari, qui n'ose pas forcément aller au commissariat dans un premier temps, eh bien, nous, ça arrive régulièrement qu'on accueille ces femmes-là. Et ça, c'est un lieu qui est, par exemple, dédié uniquement à l'accueil des femmes. Et puis, vous avez d'autres femmes pour lesquelles, effectivement, je dirais qu'il y a moins d'autres problématiques derrière. Et là, elles peuvent tenir une structure mixte. Mais ce qui est important, c'est de laisser la possibilité aux femmes de choisir. Parce qu'une femme ne peut pas subir la mixité. Une mixité choisie ou une mixité subie, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous, on aime avoir des structures, justement, pour laisser la possibilité aux femmes, à un moment donné, de dire non, moi, aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec des hommes dans mon environnement direct, je préfère me retrouver dans une structure avec des femmes. Voilà, et il faut l'entendre, il faut le respecter, il faut accompagner.
Et à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, vous souhaitez que l'accent soit mis sur ce type de situation ?
Oui, l'accueil des femmes aujourd'hui n'est largement pas suffisant par rapport à toutes les crises hein, que le monde connaît actuellement. Il faut renforcer les efforts. Alors, il y a des efforts qui ont été faits, bien sûr, il y a des places d'hébergement dédiées qui ont été ouvertes, mais on est encore largement en dessous de la demande. Je vous invite tout simplement à vous reporter vers le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est très clair et, comme chaque année, très pertinent.
Et il met en lumière hein, cette évolution, cette vulnérabilité des femmes également. C'est le premier rapport, d'ailleurs, qui s'intéresse à la question du genre face à ce type de situation. Oui. Une personne qui a besoin de votre aide, de l'aide de l'armée du salut, qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui ? Quelle démarche doit-elle effectuer ?
Soit le 115. Le 115, c'est un numéro d'urgence. Alors, je le dis avec précaution parce que le 115 fait ce qu'il peut, mais là aussi, il y a beaucoup d'appels qui malheureusement restent sans réponse parce qu'il y a beaucoup d'appels et pas assez de répondants derrière. Elle peut aussi hein, se présenter directement sur l'une de nos structures. Elle y trouvera à un moment donné une aide, en tout cas quelqu'un qui va l'orienter. Donc, il y a cette fameuse Cité des Dames hein, qui se situe au 41 rue du Chevaleret dans le 13e arrondissement qui lui peut accueillir à tout moment pour peu qu'il y ait de la place des femmes, mais il n'y a aucune condition d'accueil par exemple. Bien, les femmes peuvent se présenter directement vers une structure de l'armée du salut, pas sûr qu'elles puissent y être hébergées, parce que des fois, les structures, malheureusement, sont pleines, et qu'il y a une procédure d'entrée, hein, que nous, on gère pas forcément en direct. Mais en tout cas, il y aura toujours quelqu'un, un agent d'accueil ou un travailleur social, pour pouvoir orienter une femme qui se présenterait en urgence dans l'un de nos établissements. La porte restera ouverte.
Pour les femmes et pour les hommes, bien entendu, également.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, on pourra pas forcément répondre, mais en tout cas, on pourra orienter vers un début de solution, on va dire.
Vous disposez aujourd'hui de suffisamment de bénévoles ?
Jamais assez. Je le disais, les besoins augmentent. On a toujours besoin de bénévoles. Vous pouvez aller directement sur notre site, hein, d'ailleurs, pour voir un peu nos besoins et voir comment vous pouvez nous rejoindre. Et puis, bien sûr, on a aussi besoin de dons parce que si l'État finance 75% de nos activités, eh bien, il reste à peu près 25% à trouver hein, sur l'ensemble hein, des activités que l'Armée du Salut réalise.
Les associations, les ONG comme la vôtre font toutes état d'une hausse de la précarité importante. Parallèlement, une baisse du chômage est annoncée. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cette situation ?
La question des salaires n'a pas suivi non plus, on le sait aujourd'hui qu'on est en période d'inflation, hein, j'entendais ce matin plus 25% d'augmentation sur le CADI moyen. alors que les salaires n'ont pas augmenté de 25%. Donc, du coup, là, vous avez un gap qui est important et que nous on ressent. De l'emploi, oui, mais pour quel salaire et quel type d'emploi? Parce que c'est aussi du temps partiel. Et puis, si on revient un peu sur la question des hommes et des femmes, eh bien, on constate aussi que les femmes sont globalement moins payées à compétences égales, à travail égal que les hommes. Donc forcément, tout ça, l'évolution du coût de la vie, les inégalités entre les genres font que, effectivement, il y a des personnes qui restent, je dirais, en dessous de la ligne de flottaison d'une vie décente, quoi.
Vous vous occupez de plusieurs départements au sein de l'armée du salut. Il y a une diversité des besoins et des situations selon les départements et les régions françaises.
Oui, il y a une adaptation, territoriale. Hein. Je suis en train justement de lister un peu l'ensemble des activités que l'on fait, la région, région par région, établissement par établissement, et on se rend compte qu'effectivement certains établissements privilégient certaines activités que d'autres. Par exemple, certains vont aller plus sur du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, parce qu'ils sont sur une région où les migrants, enfin les demandeurs d'asile, pardon, arrivent. Vous avez d'autres effectivement où c'est plus des migrants. Vous avez d'autres où on est plus sur de l'accueil de jour, parce qu'on a des personnes en situation de précarité qui n'arrivent pas à trouver de structure d'hébergement et qui faut à un moment donné un lieu pour les prendre en charge au moins en journée, ou qui ne veulent pas non plus aller dans les structures d'hébergement. On fait aussi de l'intermédiation locative, c'est-à-dire un accompagnement dans le logement aussi. Voilà, on s'adapte vraiment aux besoins. Et puis aujourd'hui, l'armée du salut voudrait aller aussi un peu plus sur la question de l'emploi, parce que si le chômage recule, il n'empêche qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément les clés encore pour accéder au marché de l'emploi. Et l'armée du salut est en train de développer tout ce qui est l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire comment à un moment donné on peut remettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont encore éloignées de l'emploi pour travailler quelques heures et puis ensuite basculer sur des contrats, je dirais, classiques.
Une personne qui souhaite vous aider, comment peut-elle le faire?
Alors, une personne qui souhaite nous aider, elle est directement sur le site www.armeedusalut.fr et elle trouvera diverses manières de nous aider, soit en nous rejoignant comme bénévole, ou soit sous forme financière, en don. Ou bien, voilà, tout signe aussi de reconnaissance, un message qui nous adressait aussi simplement pour nous encourager, peut aussi nous faire beaucoup de bien et nous remotiver dans nos missions qui ne sont pas faciles au quotidien pour l'ensemble des bénévoles et des salariés qu'il y a à la Fondation.
Christophe Piedra de la Fondation de l'Armée du Salut, il répondait à François-Xavier de Calonne. Après l'Assemblée nationale, la réforme des retraites est examinée depuis ce jeudi après-midi par les sénateurs. Un compromis est possible au Sénat, a déclaré le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, alors que les syndicats se préparent à bloquer la France le 7 mars. Emmanuel Macron présidera un hommage national à Gisèle Halimi le 8 mars. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État prononcera un discours au Palais de justice de Paris. Avocate du FLN durant la guerre d'Algérie, Gisèle Halimi avait milité pour les droits des femmes et notamment la légalisation de l'avortement en France. Elle est décédée il y a 2 ans. L'émotion en France, mais aussi au Maroc, après la mort de Juste Fontaine. Il était âgé de 89 ans, né à Marrakech. Juste Fontaine a joué dans plusieurs clubs marocains, dont l'US marocaine de Casablanca. Ses obsèques seront célébrées lundi à Toulouse. Entretien avec Stanislas Frankel, enseignant-chercheur à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois, directeur de la collection culture sportive d'Artois Presse Université.
Juste Fontaine, un des plus grands footballeurs français de tous les temps, un avant-centre, joueur des plus marquants, qui deviendra ensuite après sa carrière entraîneur puis entrepreneur. Donc il est né en 1933, vous l'avez dit, à Marrakech. Il va vraiment percer à l'US marocaine où il fréquentera notamment l'un des plus grands joueurs franco-marocains, hein, qui est Larbi Ben Barek, la perle noire. Et puis dès 1952, il va rejoindre l'OGC Nice avec un titre de champion de France, un titre de Coupe de France, et ensuite, enfin, rejoindre le grand stade de Reims pour pallier au départ de Raymond Kopa. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un joueur vraiment emblématique et qui aura toujours un lien assez fort avec le Maroc. Lui qui vient d'un milieu assez populaire, d'une famille de 7 enfants, papa français et maman espagnole.
Un joueur qui aura marqué l'histoire du football marocain.
Bien sûr, parce que rares sont alors les joueurs déjà du Maroc, du protectorat marocain qui vont jouer en métropole. Donc c'est un joueur qui est connu, qui est reconnu à l'époque avant l'indépendance. Et c'est un joueur aussi qui aura toujours ensuite des liens affectifs très forts avec son pays d'origine.
Il l'a dit d'ailleurs, si j'ai été footballeur, c'est grâce au Maroc. Quel lien entretenait-il à la fin de sa vie et au cours de son existence avec ce pays ?
Il a fait quelques voyages marquants, il avait encore des amis, il y allait de manière assez récurrente, il retournait au Maroc. Voilà, il y a toujours eu ce lien avec les Marocains, avec ce club. Et puis, il faut rappeler que, en 1958, lors de la Coupe du Monde, ces 13 buts, record historique, ont évidemment marqué les Marocains.
Sa disparition représente un événement important en France, mais aussi au Maroc. C'est important de le souligner aujourd'hui.
Oui, c'est évidemment une page de l'histoire du sport qui se tourne. Aussi une page de cette histoire passionnante, passionnelle aussi entre la France et le Maroc. Une page qui se tourne et puis c'est quand même un champion emblématique, un champion colonial forgé et formé grâce à l'excellence sportive marocaine, dans laquelle on trouvait aussi des Européens, évidemment, au Maroc. Oui, c'est un personnage important qui a entraîné ensuite, après sa carrière, qui a même entraîné le Maroc au début des années 80, donc pendant 2 saisons. Et donc, c'est un personnage qui laissera une trace indélébile et puis qui sera aussi un trait d'union aussi entre les deux pays.
Un trait d'union entre la France et le Maroc, c'est notamment ce qu'il faut retenir aujourd'hui de Juste Fontaine.
Oui, et puis il faut retenir aussi, et je pense que c'est important, que c'est un joueur qui n'a pas forcément joué que pour lui. Et j'en veux pour exemple la création de l'Union nationale des footballeurs professionnels en 1961 à Paris, en gros le syndicat des footballeurs professionnels. Il y a été très actif avec le grand footballeur camerounais Eugène Njolea, qui était alors docteur ou doctorant en droit, qui faisait une thèse, et bien sûr son ami Raymond Kopa. Et à eux trois, ils ont fondé ce premier syndicat des footballeurs professionnels qui existe encore et qui a servi tant la cause, qui a vraiment servi la cause des joueurs, qui alors pour certains pouvaient se considérer de manière assez provocante comme des esclaves du patronat du football, où je le rappelle, jusqu'en 1969, donc bien après la fin de la carrière de Juste Fontaine, les joueurs étaient liés à vie à leurs employeurs, c'est-à-dire jusqu'à leurs 35 ans.
Il est qualifié de légende aujourd'hui, et c'est un terme qui est loin d'être galvaudé.
Oui, légende par sa précocité et par le fait d'avoir inscrit 13 buts en équipe de France lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède. La France était alors demi-finaliste. Et c'est une légende, quelqu'un qui a marqué vraiment l'histoire du football français. Et je le répète, car il a occupé plusieurs fonctions, pas simples. Il a aussi été en 1967 nommé entraîneur de l'équipe de France pendant quelques mois. Mais ce que je veux dire, c'est que la structuration du mouvement du syndicat des footballeurs professionnels vraiment lui doit beaucoup.
Stanislas Frankel, il a publié Le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage chez Artois Press Université. Il répondait à François-Xavier de Calonne. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, surpoids, obésité, l'autre pandémie. Les invités d'Alexis Bachelet sont Annick Fonbonne, chercheuse à l'INSERM, et Christian Boitard, docteur en médecine, immunologiste et diabétologue. Cette édition est terminée. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et sur radioorient.com. Merci d'être fidèle à Radio Orient.